La République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer. Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 8 décembre 2021. Nous allons tout de suite vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran se fera-t-il piéger ? Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le chef de la diplomatie iranienne exhorte les États-Unis à lever toutes les sanctions contre Téhéran. L'ambassadrice iranienne à l'ONU met en garde contre la poursuite des actions dangereuses du vol du pétrole iranien en pleine mer depuis l'année dernière. Et puis l'émissaire iranien déplore les sanctions unilatérales de Washington contre la CPI. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que les États-Unis doivent lever toutes les sanctions s'ils souhaitaient revenir à l'accord nucléaire de 2015, connu sous le nom du Plan global d'action conjoint PGAC. Hossein Amir Abdollahian note que l'Iran a continué de se conformer pleinement au PGAC, même un an après le retrait unilatéral des États-Unis. Il a réitéré que son pays espérait des mesures efficaces de la part des trois signataires européens, à savoir la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, accusant la Troïka européenne de ne pas avoir pris une position adéquate. Le plus haut diplomate iranien a souligné que Téhéran ne reviendrait au plein respect de l'accord nucléaire que si les États-Unis garantissaient que le passé ne se répéterait pas. Le septième cycle des pourparlers entre l'Iran et les 4+1 a été suspendu vendredi. Les signataires occidentaux de l'accord nucléaire ont exprimé leur consternation face aux demandes de l'Iran lors de la dernière série de pourparlers entre Téhéran et le groupe à Vienne la semaine dernière. L'Iran soutient que ses récentes positions remises à partie d'en face sont pleinement conformes aux termes de l'accord nucléaire. L'Iran prévient les États-Unis que l'imposition des sanctions supplémentaires ne créera aucun effet de levier dans les pourparlers de Vienne. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que de telles mesures montraient tout sauf du sérieux et de la bonne volonté. Il note que la soi-disant politique de pression maximale de Washington contre Téhéran va à l'encontre de toute percée diplomatique. Ces commentaires interviennent après que le département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions contre un certain nombre d'entités et de ressortissants iraniens pour des violations présumées des droits de l'homme. Téhéran et les autres signataires de l'accord ont jusqu'à présent tenu 7 séries de pourparlers à Vienne dans le but de lever les sanctions anti-iraniennes. Le dernier cycle de négociations reprendra jeudi. Le Royaume-Uni avertit l'Iran de signer l'accord nucléaire de 2015 juste un jour avant la reprise des pourparlers entre Téhéran et les 4+1 à Vienne. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré que les négociations étaient la dernière chance pour l'Iran de le faire. Elle a déclaré que le Royaume-Uni est déterminé à travailler avec ses alliés pour empêcher l'Iran d'acquérir ce qu'elle a appelé des armes nucléaires. Truss avance également qu'il est dans l'intérêt de l'Iran de le faire. C'est alors que l'Iran a lancé des avertissements similaires, affirmant que les négociations ne peuvent pas durer éternellement. Zahra Ershadi, ambassadrice et représentante adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies, a mis en garde contre la poursuite des actions dangereuses du vol de pétrole iranien en pleine mer depuis l'année dernière. Madame Ershadi s'est adressée à l'Assemblée générale de l'ONU lors d'une réunion sur les océans et le droit de la mer, décrivant la position de la République islamique sur un certain nombre de questions liées à ce sujet. Rappelant l'importance de la Convention de l'ONU sur le droit de la mer de 1982 en tant que cadre juridique général pour les activités dans les océans et les mers et reconnaissant également la position de la République islamique d'Iran, en tant que signataire de cette convention, le gouvernement de l'Iran estime qu'une telle convention ne peut être considérée comme le seul cadre juridique existant réagissant les activités menées dans les océans et les mers, a précisé la haute diplomate iranienne. Par conséquent, on s'attend à ce que toute négociation sur des résolutions liées aux océans et aux mers inclut la position et les considérations des parties non membres à la dite convention, a-t-elle dit. Le président du Parlement iranien en Turquie, pour assister à la réunion de l'Union interparlementaire de l'Organisation de la coopération islamique. Le président de l'Assemblée consultative islamique partira ce soir en Turquie pour assister à la réunion de deux jours de l'Union interparlementaire de l'Organisation de la coopération islamique, ayant pour les thèmes centraux Palestine, immigration et Afghanistan. Le porte-parole du présidium de l'Assemblée islamique d'Iran a annoncé le président de l'Assemblée partira ce soir pour la Turquie pour assister à la réunion de deux jours de l'Union interparlementaire des organisations de la coopération islamique. En plus d'assister au sommet, le président du Parlement, lors de son déplacement, aura des réunions bilatérales avec les présidents de certains pays islamiques présents au sommet. L'émissaire iranien a déploré les sanctions unilatérales de Washington contre la Cour pénale internationale. L'émissaire iranien a déploré les sanctions illégales et unilatérales du gouvernement américain contre la Cour pénale internationale et ses fonctionnaires. Mahdi Hosseini Esfi-Javani a ajouté lors de la 20e session de l'Assemblée des États parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale à La Haye, le gouvernement américain avait l'intention d'imposer des sanctions illégales en violation du droit international pour affaiblir les instances indépendantes. Ce fait est une tactique en vue d'acheter du temps pour le retrait de ses troupes d'Afghanistan et la fuite des auteurs de crimes de guerre en Afghanistan de la justice internationale, a-t-il insisté. Fin de ce journal. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'Iran se fera-t-il piéger ? Trop d'optimisme tue l'optimisme. Le monsieur sécurité de l'émir Ben Zayed, dont un avion est drone, continue à l'heure qu'il est à massacrer les civils yéménites à Taïz, même si, par la force des choses, les mercenaires pro-émirats ont fini très récemment par débarrasser les rives d'Hodeïda, aussitôt repris par Ansar Allah, et ce, pour focaliser exclusivement leurs efforts d'occupation et de sionisation du sud du Yémen à Socotra ou encore à Mayoun, où Américains, Israéliens et Otaniens travaillent main dans la main depuis des mois pour en faire des bases d'écoute et d'espionnage anti-résistance de façon à couper le corridor maritime anti-sanctions Iran-Syrie-Liban dont la prolongation va même jusqu'au Venezuela, aux Caraïbes. Eh bien, Tanoun Ben Zayed a été accueilli hier à Téhéran par son homologue iranien. Trop d'analyses vont dans le sens d'un rebattement des cartes des alliances au Moyen-Orient, où Ben Zayed tentait, comme à son époque, le sultan Erdogan, par problème zéro avec les voisins, s'intéresserait à reprendre avec la Turquie, à coexister pacifiquement avec l'Iran, à se remettre avec la Syrie, tout en continuant à aimer et chérir Israël. Mais est-ce possible ? Ou ce qui revient en même peut-être croire à une reconfiguration effective des alliances qui tendrait à marier une chose et son contraire ? En effet, ce à quoi on assiste en ce moment même au Moyen-Orient, dont le ciel a vomi l'US Air Force sous les coups assassins des drones et des missiles de la résistance, et dont les mers et les détroits ont prouvé comment ils pourraient rendre la vie insupportable à l'US Navy. Ici, leur port, non sûr au cargo sioniste, semble être un méga piège tendu à l'Iran, lequel a définitivement opté pour l'Est et que rien ne peut affaiblir à moins qu'il se distance de ses alliés. Il y a peu s'est tenue à Washington une haute réunion US-Israël pour la sécurité militaire et politique. Et les membres du comité ont estimé que la plus grande menace pour Israël, en plus de l'Iran et ses réacteurs nucléaires, et peut-être même plus qu'eux, étaient les groupes de résistance tels que le Hezbollah au Liban et les Hashd en Irak, Ansar Allah au Yémen et la résistance palestinienne à Gaza et en Cisjordanie et en Palestine historique. C'est ce que croient la plupart des généraux de l'armée israélienne, dans la mesure où l'épée de Rhodes a montré à quel point il est facile d'anéantir en moins de 11 jours une machine de guerre comme Israël, gros de plus de 70 ans d'injection en dollars. L'un des généraux, Dixit, l'impressionniste, a même dit qu'Israël ne pouvait pas faire face à une guerre à trois fronts. Israël peut affronter un ou deux fronts, mais en cas d'ouverture d'un troisième front, les coûts en seront trop importants pour Israël. Eh bien, ce général ment, puisque la méga-bataille balistique d'Omer a bien démontré que l'entité n'est même pas foutue, quelle que soit sa réserve de GBU, de JDAM, de F-35, affronter un de ses multiples fronts. La solution ? Deux choses. Une, soit que les États-Unis abandonnent à leur sort les colons sionistes, ce qu'ils sont en train d'insinuer, avec ces ridicules querelles de clochers Israël-US ou Seya Mossad autour du nucléaire iranien, soit qu'ils prennent le bœuf par les cornes et, à défaut de pouvoir désarmer l'Iran, le dépouiller de ses missiles et drones, ils cherchent à affaiblir ses alliés. C'est ainsi que les pilotes américains de la flotte de guerre de Ben Salman ont mené en 35 jours pas moins de 1000 raids aériens contre le Yémen, ou qu'en Irak, et sur fond d'un discours centré sur la dissolution des Hashd, une première attaque terroriste depuis des mois, voire des années, fait aujourd'hui même des dizaines de morts et de blessés à Bassora, ou qu'en Cisjordanie, les sionistes tuent les Palestiniens à distance zéro, et qu'au Liban, l'actuel sultan cherche, après la méga découlotée, dit pétrolier iranien, à faire remonter l'armée libanaise contre le Hezbollah et opérer un coup d'État militaire avec en toile de fond le désarmement du Hezbollah. Mais l'Iran va-t-il être leurré, celui de Raïssi ? Jamais.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le président français Emmanuel Macron est en tournée au Moyen-Orient. qui débouchera sans doute sur la signature d'importants contrats de la vente d'armement qui serviront sans doute contre les civils yéménites. D'où un autre crime de guerre qui vient de s'ajouter à la coalition saoudienne, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et bien sûr le Qatar, qui vont donc faire tomber des bombes sur une population sans défense et qui ne demandent que la paix et qui ne sont aucun danger pour qui que ce soit. Alors comment se fait-il que la France, contrairement à toute loi internationale, peut se permettre si aisément de vendre des armes à ces pays-là? Nous allons essayer de voir plus clair à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, je vous prie.
En pleine tournée du chef de l'État français au Moyen-Orient, au cours de laquelle il a signé de nouveaux contrats sur la vente d'armement avec les pays impliqués dans la guerre contre les civils yéménites, le média en ligne Disclose a noté que dès 2016, l'État français a autorisé la livraison de près de 150 000 obus à ses deux alliés du Golfe Persique. C'est sous la présidence de François Hollande que la France a livré en 2016 des dizaines de milliers de bombes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, tout en sachant qu'elles seraient utilisées dans la guerre au Yémen, affirme Disclose, se référant à des documents confidentiels du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, lesquels font état de vifs débats entre les équipes du ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, et de son collègue des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Ils ont été tranchés, selon le site, par le président Hollande. Les industriels français demandent l'autorisation d'exporter plusieurs dizaines de milliers d'obus et missiles aux armées saoudiennes, émiraties et qataries. Montant total des contrats, 356,6 millions d'euros, écrit Disclose, rappelant qu'à l'époque, les trois pays faisaient partie de la coalition militaire intervenant au Yémen. Le site précise que Paris doit autoriser la livraison aux forces saoudiennes de 41 500 obus par l'entreprise Jungas, une filiale de Thales, ainsi que 3 000 obus anti-chars, 10 000 obus fumigènes, 50 000 obus explosifs et 50 000 fusées d'artillerie produits par Nexter aux Émiratis et 346 missiles anti-chars de l'entreprise MBDA à l'armée qatari. A rappeler que le président français a rencontré ce vendredi Mohamed Ben Zayed, le prince héritier d'Abu Dhabi, en marge de l'expo de Dubaï 2020. Avec les Émirats arabes unis, nous avons désormais finalisé la vente de 80 avions Rafale et de 12 hélicoptères Caracal. Nous travaillons ensemble en toute confiance pour notre propre sécurité, a écrit Macron sur Twitter. Emmanuel Macron a ensuite rencontré l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, et devrait poursuivre sa visite en Arabie saoudite pour rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman.
Alors voilà pour le reportage. Alors comme j'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue Hugon.
Merci à vous. Un grand bonjour justement à M. Philippe Hugon, vous m'excusez, reporter de guerre et expert des questions internationales depuis Paris cette fois. M. Hugon, bonjour.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe, à vos auditeurs et bien sûr à Michel.
Très bien. Alors, ma première question va s'adresser à M. Luc Michel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe qu'ils ont créé ce conflit contre le Yémen pour justifier une vente d'armes pour soi-disant justifier leur sécurité dans la région?
Il y a des aspects géopolitiques qui interviennent dans le containment de l'Iran, mais il est bien certain que, comme dans toute la guerre occidentale, les marchands d'armes sont aux premières loges. Les hasards du calendrier font que ce matin, on a publié une étude pendant la dernière année de pandémie, alors que l'économie mondiale s'effondre. Les marchands d'armes américains, français, britanniques, etc., ont vendu pour 530 milliards de dollars d'armement. La France de Macron parle de droits de l'homme, de démocratie, de droits des peuples, de protection des peuples, mais elle vend la guerre, elle vend la mort, elle vend le génocide. Au Proche-Orient, elle est alliée à toutes les monarchies réactionnaires, les cousins rivaux Saoudia et Émirati, puisque s'ils sont alliés géopolitiques, ils ne sont pas d'accord économiquement, comme on le voit aujourd'hui dans l'affaire éthiopienne. Et enfin, ils sont même alliés aux rivaux qataris, pour trop les deux autres avec des franchisseurs d'embargo. Tout cela fait un juteux contrat. On vend des rafales, on vend des missiles. Il y a une constatation, vous l'avez expliqué dans votre reportage, des multinationales françaises qui veulent se donner un visage sympathique comme Thalès. Thalès qui se présente avec ses TGV et ses trains à grande vitesse en Europe. En fait, c'est un marchand d'armes et un marchand de morts lié au tout lobby des armements français. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays occidentaux. C'est un scandale sans nom. Malheureusement, ils ne peuvent même pas dire que ça ne se sait pas, puisqu'il y a eu des interpellations au Parlement français sur les ventes d'armes françaises au Yémen, comme il y en avait déjà eu sur les ventes d'armes israéliennes au Sud-Soudan. Tous ces marchands de morts devront être neutralisés, mais malheureusement, comme on dit, ce n'est pas demain la veille.
Oui. Philippe Hugon, est-ce que vous êtes d'accord avec Luc Michel quand il parle d'une France qui essaye de vendre la mort et vendre la guerre?
Oh ben c'est tout à fait ça. Hein. Il faut bien savoir que nous, monde occidental, on aime beaucoup faire la morale à travers le monde sur les droits de l'homme, sur les processus de paix. Mais tout ça représente une très très grande hypocrisie et une très grande lâcheté envers notre propre responsabilité. Il est clair que c'est une commande inespérée pour Dassault Aviation, puisque l'avion Rafale, qui par ailleurs est un excellent avion, mais c'est un avion qui ne se vend pas. Donc la commande de 80 Rafale est un contrat absolument énorme pour Dassault Aviation. Et alors bien sûr, si on ajoute à cela les obus, les missiles, tout ceci représente un volume financier qui est absolument incroyable. On ferait d'ailleurs mieux de l'utiliser dans la recherche médicale ou à l'utiliser dans la fourniture de produits alimentaires aux pays en voie de développement, ce qui n'est bien sûr pas le cas, du moins dans la réalité, puisqu'en parole, on aime beaucoup faire la morale en Europe. Hein. Alors il est clair qu'aujourd'hui, quand on voit Macron jouer les commerciaux pour les marchands d'armes et pour les marchands de mort, eh bien je trouve ça assez scandaleux que cet homme puisse être encore capable de se représenter aux élections comme il va le faire dans les mois qui viennent et qu'on cautionne en fait ce genre de personnage. C'est absolument odieux que l'Union européenne et les États-Unis cautionne ce genre d'attitude. Comme le disait Luc Michel, et il avait tout à fait raison, ce sont des vendeurs de morts. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore acceptable, à notre époque, de pouvoir vendre des bombes qui vont aller tuer principalement, d'ailleurs, des innocents, comme c'est toujours le cas dans les conflits? Il faut bien savoir que ces trois pays, Qatar, Émirats arabes unis et Arabie saoudite veulent absolument avoir le contrôle de la région. Et bien sûr, au Yémen, on a découvert d'énormes nappes de gaz et de pétrole sur lesquelles ces pays aimeraient bien mettre la main et d'en contrôler la production de façon à ce qu'il n'y ait pas une baisse des produits pétroliers et gaziers. Donc, il faut bien savoir que tout ceci est une affaire d'argent. Et uniquement d'argent. Et c'est bien là tout le problème de notre société aujourd'hui, parce qu'on a basé tout notre système de vie sur l'argent. Et c'est la raison pour laquelle le monde occidental va s'effondrer dans les années qui viennent, puisque ce repère de l'argent, et que de l'argent, est un mauvais repère et va nous créer un grand, grand nombre de problèmes. On le voit aujourd'hui d'ailleurs dans toutes les entreprises françaises. On ne parle que de rentabilité, on ne parle pas de bien-être au travail, c'est uniquement l'argent. Eh bien là, c'est la même chose au Proche-Orient et au Yémen. C'est une histoire d'argent, il faut le savoir. Ces armes représentent des dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et tant que notre système sera basé sur de telles bases, eh bien le monde ira mal et on verra des conflits se répandre à travers le monde. Ce qui est absolument incroyable, sachant que l'ONU finalement cautionne en sous-main ce genre d'attitude, puisqu'on ne voit pas l'ONU condamner la vente d'armes à ce genre de pays, ce qui est absolument scandaleux aujourd'hui.
Merci Philippe Hugon. Luc Michel, justement, les Nations Unies qui restent silencieuses face à cette vente d'armes donc, à la coalition saoudienne, comment se fait-il que dès qu'il s'agit de vendre des armes contre des civils, la France est la championne du monde?
Écoutez, tout tient en deux mots. Le bénéfice des ventes d'armement l'année passée, 530 milliards de dollars. L'argent qui est consacré au budget du Pentagone, il est de 690 milliards de dollars chaque année, auquel vous ajoutez le budget des armées françaises, britanniques et allemandes. Pendant ce temps-là, un enfant sur six souffre de malnutrition. L'ONU qui est aux mains des Occidentaux, c'est de l'hypocrisie. Elle a un programme d'alimentation mondiale, elle a un programme d'aide qui est l'UNICEF aux enfants, mais elle laisse les enfants mourir. Vous imaginez quelle misère du monde on peut soulager avec 690 milliards de dollars et 530 milliards de dollars cumulés. Et nous ne parlons que d'une seule année. C'est cela qu'il faut constater. La France vit des industries d'armement et son industrie de pointe ne serait pas rentable. Airbus ne serait pas rentable sans Dassault. Thales ne serait pas rentable sans ses ventes d'armement, comme vous venez de l'expliquer. Areva ne serait pas vendable sans les industries nucléaires d'armement. C'est cela qu'il faut constater. L'industrie civile française est endossée sous l'industrie militaire. C'est une spirale infernale qui a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale et juste avant. C'est-à-dire que les Américains, en 1914, c'est une petite puissance secondaire. Pendant trois ans, il n'y a que puissance européenne qui sont à conflit suicidaire, se battent entre elles, ils arment tous les côtés. Et en 1917, quand ils interviennent dans la guerre, ils sont les créanciers de l'Europe. C'est la même chose en 1941. En 1940, ils sortent de la guerre, et ils entrent dans la guerre comme producteurs d'armement. En 1945, ils sont la superpuissance mondiale. L'année passée, le TikTok Axios, qui est un TikTok géoéconomique, a publié une étude. Il a expliqué que les guerres dans le monde nuisaient à tous les pays sauf aux Américains. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle à propos des Français. Les Américains, dans toutes les guerres, voient leur bourse de New York augmenter. Même pendant la guerre du Vietnam, qui est une défaite américaine, la bourse de New York voit la capitalisation monter de 40%. C'est-à-dire que la défaite du Vietnam, c'est une bonne affaire pour le lobby militaire industriel américain. Les Français, depuis De Gaulle, ils ont copié ce lobby militaire industriel. Les Israéliens également et les Anglais également. Voilà ce qui sont tout le bloc occidental, puis avec cette logique du profit où l'industrie militaire est le soubassement de l'industrie publique.
Philippe Hugon, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, il n'y a malheureusement pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Luc Michel, mais c'est tout à fait juste. Les lobbies pour la vente d'armes sont extrêmement puissants. La vente d'armes génère des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc il est clair que tout ce complexe militaro-industriel finance également des campagnes électorales à un grand nombre de politiciens. Et aucun politicien aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, se mettra devant ce lobby militaro-industriel. Et il a une telle puissance aujourd'hui et une telle force qu'il est absolument inconcevable aujourd'hui pour un politicien de vouloir lutter contre le complexe militaro-industriel. Mais ce qui est de plus grave dans tout ça, c'est que tous ces conflits arrivent à faire des dizaines de milliers de morts dans une indifférence complète, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est une véritable indifférence.
Philippe Hugon.
Vous prenez dans la rue et vous pouvez faire un micro-trottoir en interviewant des gens qui passent dans la rue. La plupart des gens ne savent même pas où se trouve le Yémen. Alors ce qui s'y passe, c'est le dernier de leurs soucis. Il faut savoir qu'en Europe aujourd'hui, la classe moyenne est extrêmement touchée, hein, le monde ouvrier est extrêmement touché, donc ils pensent plutôt à essayer d'avoir une vie un peu plus agréable et ne s'occupent pas du tout des problèmes internationaux.
Philippe
et ça, les États du monde occidental le savent. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils en profitent de pouvoir aller bombarder des civils, aller faire n'importe quoi, puisqu'ils savent très bien qu'il n'y aura pas de condamnation interne. Il faut bien savoir qu'il faut appliquer dans ce genre de problème la règle des 20-80, c'est-à-dire que vous avez 20% des gens qui réfléchissent et 80% des gens qui ne réfléchissent pas. Donc parmi ces 80% qui ne réfléchissent pas, ça ne pose pas de problème de réflexion au niveau des peuples. Quant aux 20% restants, eh bien vous avez 4 ou 5% de gens qui réagissent comme nous on le fait aujourd'hui. Quant aux 15% supplémentaires, eh bien eux s'en foutent royalement. Donc c'est pour ça que l'impact est aussi minime en Europe et aux États-Unis sur les problèmes causés par le bombardement de ces pays et les dizaines de milliers de morts que ça occasionne dans ce genre de pays. Je ne parle pas d'ailleurs spécifiquement du Yémen, mais ça a été le cas en Irak, ça a été le cas en Afghanistan, ça a été le cas dans de nombreux pays. Hein. Donc on se rend compte aujourd'hui que la conscience internationale est extrêmement limitée. Et c'est la raison pour laquelle tous les pays occidentaux se moquent éperdument par la vente d'armes à royalistes comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou les Émirats.
Philippe Hugon, vous avez indiqué à maintes reprises dans l'émission Le Débat que c'est une France en faillite. Et dès que la France connaît des problèmes financiers, il se rend dans le Moyen-Orient pour vendre des armes. Donc, comme vous avez dit, il se contrefiche complètement. La suite donc de cette vente d'armes qui va occasionner des milliers de morts d'innocents, des civils yéménites. Mais Philippe Hugon, mais les Français restent les mains croisées face à cette catastrophe ou bien sont indifférents à cet égard et préfèrent avoir une meilleure vie en vendant des armes à de tels pays?
Ah, mais tout à fait. Il faut bien savoir que les 80% des gens qui ne réfléchissent pas ont souvent beaucoup de problèmes financiers pour arriver à survivre dans une société qui est de plus en plus difficile. Et puis, il faut savoir que la France est en faillite financière et que nos dirigeants se foutent royalement, bien sûr, des Yéménites, mais ils se foutent également des Français. Hein, il faut bien savoir que si on avait des dirigeants qui tiennent compte de son propre peuple, les choses se passeraient autrement aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui ont des valeurs financières, des valeurs économiques, et que ce soit des Français ou des Yéménites qui viennent à mourir, ils s'en fichent complètement. Ce n'est pas le but. Le but des politiciens français, c'est d'être élus et de conserver le pouvoir. Donc on n'est pas du tout dans une logique de politique traditionnelle avec des envies de changer un certain nombre de choses. Ces gens-là sont là pour prendre le pouvoir et gagner de l'argent. Une fois de plus, c'est l'argent qui pose le problème parce qu'on inculque aujourd'hui dans toute la société française que la réussite, c'est de gagner de l'argent. Alors je comprends que ce soit important de gagner de l'argent de façon à bien vivre, mais il ne faut pas que ça devienne le problème numéro un des Français. Et c'est bien là le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une grande indifférence. Il faut bien savoir que le monde occidental est un monde égoïste, c'est un monde individualiste où les gens ne pensent qu'à eux. Alors ce qui se passe à côté de chez eux, ils s'en foutent complètement. C'est le dernier de leurs soucis, particulièrement dans une société comme on a aujourd'hui, où le travail devient difficile et s'en sortir devient de plus en plus difficile.
Luc Michel, est-ce que vous avez une solution à ce problème?
Il n'y en a pas, parce que le problème, c'est que même les forces de gauche, qui étaient pacifistes avant 1939 et avant 1914, soutiennent maintenant les industries d'armement sous prétexte plein d'emploi. Lorsque la France a perdu ce contrat de 50 milliards d'euros de fourniture de sous-marins nucléaires à l'Australie pour faire la guerre à la Chine, eh bien, ceux qui ont le plus protesté, ce sont les syndicats de gauche de Saint-Nazaire. L'homme qui a tout révolu, je ne pense pas moi qu'il y ait malheureusement de solution. Tant que le système occidental existera, il y a un homme qui a tout résumé. C'est le président américain Eisenhower en 1949. C'est le premier à avoir utilisé l'expression lobby militaro-industriel. Il était pourtant le président de la superpuissance américaine. Il avait commandé les armées alliées en Europe en 1944. C'était un acte de puissance. Il a dit, le président des Amériques, des États-Unis, n'a rien à dire face au lobby militaro-industriel. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est Macron aujourd'hui? C'est un VRP des industries d'armement. Il se déplace pour vendre des Rafales, pour vendre des sous-marins nucléaires, pour vendre des missiles, pour vendre des ponts. C'est son but principal parce que c'est la principale source de revenus d'exportation de la France, comme elle est la principale source de revenus de la Grande-Bretagne. Le principal fournisseur des Saoudiens, ce n'est pas les Français, c'est la Grande-Bretagne, et c'est la principale source de revenus des États-Unis. Sur les 530 milliards de dollars pour gagner les marchands d'armes l'année passée, alors que l'économie mondiale était en train de s'effondrer, que toute la population, les oubliés, les classes moyennes, sont pépourisées, eh bien, plus de la moitié de ces 530 milliards de dollars ont été amassés par le lobby militaro-industriel américain. C'est ça qu'il faut savoir. La solution, elle n'est pas à chercher à l'intérieur du bloc américain occidental, elle est dans le renvoi aux oubliettes de la géopolitique de ce lobby industriel, de ce lobby militaire, de ce bloc américain occidental. Il faut que les États-Unis redeviennent une petite puissance régionale comme ils l'étaient avant 1914. Ça suppose une victoire du bloc de l'Est dans la confrontation des blocs qui est actuellement...
Oui. Donc, des détails très importants que vous nous indiquez, Luc Michel. Philippe Hugon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution tant qu'il y a ce système occidental?
Oh ben, c'est sûr que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a privilégié l'argent, on a privilégié les grands groupes de distribution, les grands groupes industriels, alors que c'est vraiment une erreur phénoménale. Il faut au contraire se concentrer sur les classes moyennes qui, justement, sont créatrices d'entreprises et d'emplois, et ne plus compter sur ces grands groupes industriels qui ne pensent qu'à faire des bénéfices importants. Donc, il est clair qu'avec la surpopulation que nous avons aujourd'hui à travers le monde, il va être très difficile dans les années qui viennent de contenter tout le monde et de pouvoir faire vivre tout le monde. Ça, c'est un véritable problème. Et je pense qu'on va assister dans les 15 ans qui viennent à des bouleversements au niveau mondial, au niveau de la société mondiale, et des bouleversements que personne ne peut aujourd'hui comprendre et ne peut prévoir, puisqu'il y aura bien sûr une grande part d'inconnus dans ce qui va arriver. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont prévisibles, et beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas voir les réalités de la situation. Donc, tant que le système fonctionne comme ça, eh bien, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'on se retrouve dans un véritable mur et qui va nous plonger dans une catastrophe économique et financière incroyable. Pour ceci, je pense qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Je pense que dans les 5-6 ans qui viennent, on va connaître une crise financière sans précédent. Un petit peu, je ne parle pas de 2008, c'était une petite crisette, je dirais même que c'était une contraction des marchés, mais je parle plutôt d'une véritable crise comme on a connue en 1929, mais qui sera décuplée par la surpopulation que nous avons aujourd'hui et qui va se décupler également dans sa rapidité et dans sa profondeur. Donc ça va modifier totalement la société mondiale et l'économie mondiale, parce que c'est une chose que le monde n'a pas encore vécue. Donc ça risque de créer un très grand nombre de conflits à travers le monde. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème des sociétés basées, qui ont tout basé sur l'argent comme valeur de référence.
Mais Philippe Hugon, le président français semble justifier la faillite financière en vendant des armes contre des civils. Est-ce que cela est justifiable?
Mais non, ce n'est pas justifiable du tout. La faillite financière de la France, elle est inéluctable. Hein. Elle va arriver et ce n'est pas la vente d'armes qui va permettre de rétablir une situation financière dans laquelle on se trouve aujourd'hui. La France est en faillite, comme le monde occidental, d'une manière générale, est en faillite. On a 120% de dette de PIB, ce qui n'est plus du tout remboursable aujourd'hui. Donc, quelles que soient les solutions que l'on va adopter, aujourd'hui, ça n'empêchera pas cette crise financière. On pourrait seulement l'atténuer en prenant certaines mesures fortes. Mais aujourd'hui, les politiciens n'ont absolument aucun courage. Ce que je vous dis bien aujourd'hui, le véritable problème, c'est la surpopulation et la valeur de référence universelle qui est devenue l'argent. On peut le voir d'ailleurs avec le Covid et la vaccination. Hein, la vraie question, c'est de savoir combien de centaines de millions d'euros se sont partagés les politiques pour imposer, ou du moins essayer d'imposer une vaccination à un peuple, au peuple français, sachant que la vaccination n'est pas la solution
tout à fait
idéale, puisqu'on a vu des gens prendre le Covid tout en étant vaccinés. Donc, c'est des solutions un peu bâtardes. Aujourd'hui, ce que les politiques cherchent à faire, c'est essayer d'atténuer un petit peu les effets de
tout ça. Tout à fait, oui. Voilà. Philippe Hugo, reporter de guerre, expert des questions internationales depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir apporté beaucoup de précisions à cette émission. Un grand merci à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature. L'agonie du libéralisme américain. Le président américain Joe Biden refuse le principe America First, proclamé par son prédécesseur Donald Trump. Biden a même souligné que ce slogan fait de l'Amérique le dernier, pas le premier. C'est une déclaration très intéressante qui montre l'idéologisation croissante du Parti démocrate et de ses politiques sous l'administration Biden. Le président actuel fait de son mieux pour se distancier de la politique de Trump qui a agi en grande partie dans la veine de la realpolitik. L'Amérique donne à nouveau la priorité aux idées du libéralisme dont les valeurs ne connaissent ni frontières ni différences culturelles. Les pays occidentaux, économiquement les plus avancés, honorent avec quelques réserves les dispositions de ce courant social et politique comme des dogmes sacrés et immuables et rejette sévèrement les vues des acteurs qui ne lui sont pas solidaires. Les États-Unis d'Amérique ont endossé le rôle du noyau de cette idéologie, son porteur dans le monde, proclamant que ce sont les États-Unis qui diffuseront les valeurs libérales à d'autres pays sur le principe de « soyez avec nous et vous deviendrez comme nous », signifiant que la communion avec l'idéologie ouvrira simultanément l'accès au développement socio-économique et socio-culturel au niveau des pays occidentaux. Les déclarations de l'establishment américain sur l'expansion des idées libérales ont principalement été que la propagation de la démocratie libérale à l'américaine dans le monde est un bien indéniable pour les pays du monde et que les États-Unis réussissent tout aussi indéniablement à faire avancer ces idées. Cependant, de nombreux experts et personnes ordinaires ont de forts doutes quant à la véracité de ces jugements. L'Amérique ne deviendra pas l'hégémonie libérale du monde, peu importe à quel point les élites démocrates le veulent. Dans un cas, nous pouvons le démontrer par le fait que les États-Unis ne pourront pas agir en tant que leader politique et moral de l'humanité entière en raison de la nature anarchique des relations internationales. L'Amérique ne peut pas elle seule façonner et gérer rationnellement le nouvel ordre mondial et l'avenir de l'ordre mondial réside dans le domaine de la multipolarité. Un autre argument est que le libéralisme a épuisé les limites de sa croissance naturelle et son imposition artificielle conduit à l'échec à chaque fois. Ce dernier est clairement illustré par la chute du régime soutenu par les États-Unis en Afghanistan. Pour faire une analogie, rappelons le politologue américain John Mearsheimer qui a formulé la stratégie de politique étrangère américaine de manière réaliste et rationnelle. Il estime que les valeurs des démocraties libérales ne sont pas universelles dans leur aspiration à les diffuser dans le monde entier, dans le but de renforcer leur leadership mondial, les États-Unis n'y parviendront pas mais exposeront seulement leur budget national à des coûts énormes. L'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays n'a pas conduit à l'établissement de régimes politiques corrects dans ces pays du point de vue des États-Unis et n'a pas non plus renforcé la position des États-Unis dans ces pays. Au lieu de cela, de telles politiques ont accru la déstabilisation militaire dans diverses régions du monde et l'armée américaine y porte à nouveau les valeurs démocratiques américaines. Un cercle vicieux de chaos et de dépenses budgétaires élevées de l'État à des fins qui ne sont pas dans l'intérêt national américain. Comme alternative, Mearsheimer suggère que les États-Unis changent leur vecteur de politique étrangère en un vecteur plus rationnel, poursuivent une stratégie de confinement plutôt qu'une stratégie de pénétration omniprésente et se concentrent davantage sur la construction d'une politique intérieure réussie. Malheureusement, sa voix de la raison n'a pas été entendue au milieu des cris du triomphe des valeurs progressistes. La situation idéologique malsaine aux États-Unis a été conditionnée au cours des dernières décennies parce que le libéralisme est devenu comme principe de politique intérieure. L'idéologie du politiquement correct affirmée dans les États-Unis modernes a commencé à nier les libertés libérales classiques d'expression, de réunion, de presse et de conscience. S'il ne n'a pas le droit de dire quelque chose de dur à propos des minorités, ce n'est pas la liberté d'expression. S'il y a discrimination positive, ce n'est pas l'égalité universelle des citoyens devant la loi, mais quelque chose qui s'apparente à un privilège de classe. Si un homme a peur de regarder une femme du mauvais côté, de peur d'être accusé de harcèlement, alors il y a quelque chose qui s'apparente à des restrictions de classe. L'incendie par les féministes et les activistes noirs de livres de Kipling ou de Mark Twain rappelle les feux de joie du XVe siècle sur lesquels le moine florentin Savonarole a ordonné l'incendie de l'art de la Renaissance. Le libéralisme, dans son sens originel, était l'une des grandes réalisations de la pensée politique, mettant la civilisation occidentale dans la bonne direction pour le développement social, étatique et économique. Mais toute invention a une limite à son développement, et le libéralisme a écrasé cette limite à un certain moment. Le libéralisme américain a cessé d'être un outil idéologique pour parvenir à la paix et à la justice dans le monde. Sa prolifération est devenue son objectif propre et c'est le principal problème de l'idée libérale américaine moderne. Le libéralisme est devenu le contraire de lui-même. Il détruit les résultats de sa propre activité pour ne pas arrêter son action. L'un des symboles les plus anciens de l'humanité vient à l'esprit. Le serpent Ouroboros, symbole de la nature cyclique de l'histoire, se mordant la queue. Il semble très logique de ce point de vue que les démocrates américains ne fassent aucune tentative pour sortir de ce cycle, car ils sont en un sens ce même serpent Ouroboros.